Lundi 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, mercredi 30 novembre. Eh oui, on est ensemble jusqu'à 21h, 1h30 d'émission spéciale Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et dans cette émission de ce mercredi soir, on parlera de quoi ? Eh bien, de la France qui maintenant va accueillir ses 8e de finale. Bon, elle a perdu la France face à la Tunisie. Ça sera au menu de cette émission. Oblige. Hervé Renard et sa troupe, que du plaisir, peut-être, on verra, le match qui va commencer dans quelques minutes du côté du Qatar, et oui, face aux Mexicains, et on va pas oublier nos amis marocains qui ont franchi un certain cap, déjà sur le continent africain depuis belle durette, mais aussi au niveau international. Rien de plus simple pour réagir avec toute l'équipe de Tamsport. On a le numéro du standard qu'on vous donne, le 01 53 48 3000. Et aussi, on va aborder le débat du jour, Deschamps, comment rester au-dessus des autres nations. Voilà, la parole, on vous la donne. Rien de plus simple, vous composez le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Avec Anthony à la réalisation et toute l'équipe de Tamsport, on vous fait remporter aussi le magnifique ouvrage, le guide de cette fameuse phase finale de Coupe du Monde 2022 au Qatar, aux éditions Solar. Allez, on va marquer d'une courte pause avant de revenir avec toute l'équipe et les compositions des deux matchs de ce soir.
Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, en ce début d'émission, 19h42, toujours en live jusqu'à 21h, avant d'accueillir, comme chaque soir, Vanessa jusqu'à 23h. Vous êtes avec nous sur Time Sport spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar. On va aborder, les petites infos concernant ce mondial de football.
Time Sport. Le JT.
On a deux matchs ce soir. On a la Pologne qui rencontrera pour la dernière journée de son groupe l'Argentine et aussi l'Arabie Saoudite qui rencontrera cette fois-ci les Mexicains. Peut-être, on va commencer avec la composition des Polonais avec Lewandowski et sans oublier la Bicéleste de Messi. Eh oui, l'Argentine de Léo Messi. Et avec toi, Vivien.
Pour la Pologne, donc les hommes de sélectionneur Michniewicz, oui, c'est très dur à prononcer son nom, donc gardien de but.
C'est difficile.
Zelensky. Donc on a Cash, Kiwar, Glik, Berezinski. Au milieu de terrain, Bielik, Krikoviak et Sidiarski. Enfin devant, Zielinski, Frankowski et bien sûr le capitaine Robert Lewandowski.
Eh oui, allez avec Alexis. Bonsoir Alexis, qui est avec nous jusqu'à 21h. Allez, pour l'Argentine, on t'écoute.
Alors, on aura Martinez dans le but, Molina, Otamendi, Romero, Acuña, au milieu Di Maria, De Paul, Fernandez, McAllister, et devant Messi et Alvarez.
Allez, concernant l'Arabie Saoudite, avec les Mexicains, allez, il est avec nous ce soir, c'est Chekib. Comment ça va, Chekib ?
Ça va très bien, j'ai malheureusement pas les compos.
Ouais, les compos, mais non, on les a, nous. Toi, tu les as pas, parce que voilà, il est pas connecté ce soir, hein. Il a rien. Il est, c'est l'effet Tunisie, ça. C'est l'effet Tunisie.
Je suis sur le nuage.
Avec Rudy, peut-être, si on a les compositions. Allez, avec Rudy, l'Arabie Saoudite face aux Mexicains, Rudy.
Ah, faut me donner un peu le temps, là.
Ah, ben, justement, on va lui donner un peu le temps, mais sinon, on a Anthony, hein. Anthony, il peut enchaîner directement. Et même avec Vivien, on les a, nous, les compos. Elles sont bien là. On les a bien reçues. Alors, Anthony, bonsoir. Comment ça va?
Ça va et toi? Bonsoir, l'équipe. Alors, pour l'Arabie Saoudite.
Allez, on va essayer.
Ah, vas-y. Bon courage, Anthony.
Merci. Allez, on va essayer. Chekib, mais voilà, c'est pour ça que Chekib. Mais oui, ah, ben oui,
Chekib.
Ah, ben oui, mais oui, on l'a compris. Mais Chekib, il nous sert à rien, là, ce soir.
Je vais faire le Mexique, je suis plus à l'aise.
Ah, ben oui, Chekib, il faut l'aider quand même.
C'est pas sympa.
Mais non, mais non, mais non, arrête un peu.
Déjà, tu peux rappeler les sélectionneurs, parce que tout le monde ne le sait pas.
El Wahi, El Ghanem, El Amari, El Tembaki. Al-Buhaydi, Al-Hassan, Al-Hamid, Kano, Al-Birkan, Al-Sahri, Al-Dawsari.
Et le sélectionneur. Vous nous avez comme ça, voilà, et sélectionneur. Système de jeu peut-être.
Donc c'est la
Concernant les Mexicains.
Le Mexique.
Alors, Anthony, on va t'écouter.
Avec l'accent.
Ouais, bah non,
au choix.
Allez,
au choix. Sanchez, Montes, Moreno. Gallardo. Oui, bon, voilà. Hein. J'ai fait LV2 espagnol.
Bien sûr.
Pineda, Alvarez, Chavez, Lozano, Martin et Vega.
Et oui, pour ce troisième match donc de poule, Hervé Renard donc s'appuie sur un 4-3-3.
Voilà, échange, trois joueurs quand même. Hein. Le latéral Al-Boulek qui sort du 11 et remplacé numériquement par El Tambakti. Voilà, qui occupera l'axe de la défense. Un mot concernant les Saoudiens face aux Mexicains. L'Arabie Saoudite, pas mal de monde aimerait la voir en huitième de finale. Alors Alexis, avec Chekib.
Bah oui, oui, non, c'est une équipe franchement qui fait plaisir à voir jouer. Ils ont fait un super premier match contre l'Argentine où ils ont bien. On a eu peur au début et puis après finalement ils ont été bien en bloc, ils ont bien repoussé les assauts argentins, ils les ont bien annulés. Après le deuxième match, j'ai trouvé ça un peu plus faible. Après la Pologne avait l'air aussi revancharde après son premier match. Donc, mais oui, oui, moi franchement, les Saoudiens qui prennent des tôles tous les ans, notamment en Russie encore il y a 4 ans, là je trouve qu'il y a eu une progression. Hervé Renard, il fait du bon travail. Il a bon aussi dans la précipitation, mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Et oui, oui, j'aimerais bien les voir au deuxième tour de la Coupe du Monde. Ce serait une belle récompense pour eux.
Pourquoi pas, Chekib?
Moi, je trouve réellement que c'est le scénario parfait pour l'Arabie Saoudite. Parce que quand on gagne son premier match, on perd le deuxième match, on arrive, on a tous les ingrédients pour le troisième match. Ça veut dire qu'on a les leçons de la victoire et on sait qu'on est capable de gagner, de se qualifier. Et on a aussi le goût amer de la défaite et les leçons qu'on retient après avec la vidéo pour le prochain match. Donc il y a eu comme la victoire, la revanche et là c'est la belle. Et les troisièmes matchs comme ça sont très importants parce que on n'a pas de regrets. S'ils gagnent, ils auront mérité leur qualification. S'ils perdent, ben ils rentrent à la maison sans regrets. Ils ont perdu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le niveau et il faut qu'ils travaillent plus dur. Donc, c'est vraiment les matchs que j'adore. En plus, l'affiche, elle est quand même, ils ont battu les plus forts, un des favoris. Peut-être que c'était un des favoris, peut-être dans le top 3 de la plupart des consultants et ils l'ont battu. Donc là, ils ont un match à leur portée et l'exploit à leur portée. On a vu là la Tunisie qui hier on en avait.
On va revenir largement sur la Tunisie face à l'équipe de France.
Voilà, ben espérons qu'ils fassent pareil, qu'ils créent l'exploit parce que c'est cette Coupe du Monde d'exploit qu'on aime.
Ouais, c'est ça. Rudy, qui est avec nous ce soir. Alors Rudy.
Bonsoir à tous.
On a tendance à l'apercevoir avec les informés d'Adil Farkan.
Yes, salutations Adil au passage. Non, moi je trouve que l'Arabie Saoudite. C'est une bonne équipe, pourquoi ? Parce qu'elle évolue dans un contexte particulier. On connaît les réalités géopolitiques entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et de voir le Qatar démarrer mal sa Coupe du Monde et se retrouver déjà qualifié, du coup, c'est comme si ça donne un petit peu des ailes aussi à l'Arabie Saoudite qui va dire, bon, c'est pas notre Coupe du Monde, mais on va se l'approprier pour dire, en fait, c'est nous qui aurions dû gagner l'organisation de cet événement parce que c'est nous qui sommes vraiment les plus forts dans cette région du monde. Et ils ont un atout phare parce que pour moi, l'atout, c'est pas sur le terrain, pour moi c'est sur le banc. Pour moi c'est Hervé Renard. On sait que c'est un entraîneur caractériel dans le bon sens du terme, qui s'est donné en fait de la force, de l'énergie, de la puissance et surtout un supplément d'âme à cette équipe. Et pour moi c'est ce qui caractérise aussi cette Coupe du Monde, c'est le supplément d'âme. On l'a vu avec la Tunisie, on en reparlera tout à l'heure. On l'a vu, je sais pas, avec le Sénégal, avec le match du Ghana contre le Portugal, etc. Vraiment, ce que je trouve intéressant dans cette Coupe du Monde, c'est qu'il y a ce supplément d'âme qui est puissant, qui est débordant et qui caractérise aussi l'Arabie Saoudite. Après, ça ne veut pas dire que tactiquement, il n'y a rien. Hervé Renard, c'est aussi quelqu'un qui sait préparer ses équipes d'un point de vue tactique, etc. Bon, allez, à la Coupe du Monde, on l'a toujours dit, il faut d'abord savoir bien défendre, ensuite faire des sorties de balles assez rapides, etc., pour déstabiliser l'adversaire. Donc, c'est ce qui fait, je trouve, très bien. Même si effectivement, comme tu disais, sur le deuxième match c'était un peu plus décevant, là ce deuxième match, en fait je pense qu'ils vont jouer un peu plus libérés parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de gagner pour s'assurer une possible qualification.
Il y a un monde où le Mexique peut aussi se qualifier, donc il va falloir de toute façon pas calculer et pas se dire on joue le nul en espérant que le Mexique batte l'Argentine.
Le Mexique, c'est pas une assurance.
On va regarder ces deux matchs de près, on le rappelle,
contre la Pologne, il me semble.
Contre la Pologne, le premier match avant de perdre 2-0 contre l'Argentine.
Voilà, donc bof, quoi, tu vois. Il y a encore des choses à jouer pour l'Arabie Saoudite.
Ah oui,
c'est un vrai 16e de finale. Fin. Ouais. Et puis, justement, l'enseignement dont tu parlais, je crois, tout à l'heure, c'est que dans le deuxième match, il y a quand même ce pénalty loupé qui,
ouais,
malgré tout, voilà, il faudrait être réaliste ce soir, en plus d'être solide défensivement. Et c'est là où, justement, face à un gardien comme Ochoa qui peut sortir un grand match, et c'est là où moi je suis assez curieux de voir comment l'Arabie Saoudite va se comporter.
Oui, bien sûr, on le rappelle, c'est le groupe C, hein, qui opposera la Pologne à l'Argentine. Le match va commencer dans un peu moins de 10 minutes. Et aussi, on aura l'Arabie Saoudite qui rencontrera dans ce fameux groupe C la dernière journée, le troisième match, face aux Mexicains. Le match va commencer d'ici 20h. Voilà, et aussi celui de l'Argentine face à la Pologne. Des petites infos concernant le match d'hier qui opposait justement l'Iran aux États-Unis. Il y a eu pas mal, de festivités, mais du côté de Téhéran, hein, du côté de l'Iran, où bon, on sait bien, hein, avec dans un pays qui est traversé par de nombreuses manifestations depuis plusieurs semaines, on aperçoit quand même voilà une vague de contestation. Et c'est vrai qu'hier, au sifflet final, il y en a qui ont hurlé de joie en voyant les États-Unis passer et non pas leur pays qui est l'Iran. Un mot concernant cela. Oui. Maintien en jeu. Oui. Vas-y. Toi.
Ce qui se passe. Alors. Ce qui se passe, c'est que il faut garder en tête que l'Iran, c'est un très grand pays. Je parle géographiquement parlant. Bien sûr, il y a aussi l'histoire des Perses, etc. Mais il faut se méfier entre la vérité et ce qu'on montre de la vérité. C'est-à-dire que des fois, dans un grand pays, il peut y avoir un village ou un endroit qui
on sait bien.
Voilà, et on filme cet endroit-là.
Bien sûr, il y a une phrase. On sait bien. Il y a beaucoup de fake news.
Voilà, il y a beaucoup une phrase que j'avais écrite il y a longtemps où je disais que.
Allez, tu vas la ressortir.
Je vais la ressortir.
Allez, vas-y.
La malhonnêteté intellectuelle, c'est prendre une vérité microscopique et faire un mensonge macroscopique.
Ah ben ça c'est bien dit.
Macroscopique.
Ouais. Macros, tu connais pas.
Boula, sors de ce cours. J'arrête, Vivien. Tranquillement. Vivien, on a d'autres infos qui nous viennent tout droit. Sur cette planète football, c'est Canelo Alvarez. Ça va parler ça à Alexis, qui s'excuse après avoir menacé Léo Messi. Là aussi. Oui, vous vous souvenez dans les vestiaires, l'Argentine face aux Mexicains, Messi avait sans pas esprit, sans certain. Voilà. Il avait marché sur le maillot mexicain et Canelo Alvarez, le champion Walters moyen, qui avait dit justement, j'aimerais ne pas te rencontrer. Oui, c'est ça.
On veut bien ça m'intéresse.
C'est un peu chaud.
Pas longtemps.
C'est pour les petites infos concernant le football et cette fameuse Coupe du Monde. Vous restez avec nous, on va revenir. On a une large page concernant ce Tunisie-France. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h45, si vous venez de le retrouver, sachez-le, le standard est là. Jean-Pierre Colombiès, l'ancien commandant de la police, mais également le porte-parole des policiers indépendants de France. Vous êtes avec nous en direct au 0153-48-3000 avant de retrouver le face-à-face. Nous allons retrouver Gérard qui nous appelle du 03 Moulin. Bon, rebonsoir Gérard.
Bonsoir, mais alors vous avez l'ambiance alors sur l'antenne.
Ça, vous l'avez vu, mais on essaye de faire vivre, on essaye de vous faire vivre justement nous aussi, pour vous accompagner en fin de soirée comme ça, début de soirée. Quelle est votre question pour Jean-Pierre Colombiès?
C'est une question qui n'a rien à voir. Je me tartine une tartine de beurre tous les matins en vous écoutant.
Ah, ça c'est bon ça. Tartine de beurre en écoutant Beurre FM, c'est bien, c'est bon. Avec Kim.
Beurre FM, tartine de beurre.
Avec Kim.
Facile.
C'est une question technique.
Voilà, vous avez bien raison. C'est bien. Quelle est votre question?
Alors, la question, c'est que, avec mon portable que j'ai à la voix, je n'arrive pas à vous avoir. Comment il faut faire?
J'ai pas compris.
Non, moi non plus.
Non, voilà, j'annonce à la voix. J'ai un téléphone qu'on commande à la voix. Je suis non-voyant. Je dis Beurre FM et j'arrive pas à vous avoir.
Ah, vous arrivez. Ah oui, d'accord. Mais quel est le rapport avec la police?
Rien du tout.
Vous êtes bon, vous êtes bon, vous Gérard. Vous êtes bon, vous êtes bon.
Il arrive à être à l'antenne sans avoir de questions. Bravo.
C'est bien. Bravo. 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 Bah écoutez, restez branchés Beurre FM.
Oui.
Mais je ne sais pas quoi vous répondre. Je suis en bas.
Bonne soirée. Moi, je pense que c'est une bonne soirée.
Bonne soirée, mon cher Gérard. Et prenez soin de vous. Restez fidèles. Hakim de Bourges. Hakim, bonsoir.
Oui, bonsoir Adil. Bonsoir à votre invité.
Bienvenue. On vous écoute pour la question. Pour Jean-Pierre Colombès, vous écoute.
Relativement simple. Je voulais savoir si jamais il y a. Quand une personne va faire justement, pas un dépôt de plainte, mais une main courante. Est-ce que la personne contre qui on fait la main courante est au courant et convoquée au commissariat ou autre?
Non.
Jean-Pierre Colombiès.
La réponse est claire, non. De toute façon, quand vous déposez une main courante, vous êtes maître du jeu si vous décidez. Alors, parfois, les services de police posent la question si vous souhaitez qu'il y ait une convocation consécutive à cette main courante pour tenter un arbitrage à l'amiable, une discussion qui peut d'ailleurs faire l'objet aussi d'une main courante. Mais si vous, lorsque vous déposez cette main courante, vous dites non, je veux juste laisser une trace et je ne tiens pas à ce que ni la personne soit avisée ni qu'elle soit convoquée, on en restera là.
Voilà, Hakim.
Bon, ça veut dire. Il peut très bien y avoir des mains courantes entre nous sans qu'on soit au courant pendant toute notre existence. Quoi.
Tout à fait.
D'accord, ok.
C'est bon, clair pour vous, Hakim ?
Très clair, je vous remercie.
Eh bien, écoutez, restez branchés pour FM et les informer.
Bonne soirée. Hein.
Bonne soirée, c'est parti pour le face-à-face.
Les informer. Les informer. Le face-à-face.
Il faut bien qu'on débat parce que sinon, vous en avez pour la soirée, hein, question-réponse. Hein. Jean-Pierre Colombiès, je vous garde. Est-ce que quoi ?
Rigolez, vous êtes bon, vous ?
Vous êtes bon. Bah, attendez, je m'attendais à une question autour de la. Ah, police, voilà, conseil, on est là pour ça, quoi.
En fait,
Jean-Pierre Colombiès, c'est là pour répondre, vous aiguillez,
même
quoi.
Même pour les problèmes de téléphonie, si nécessaire.
Bon, Jean-Pierre, je vous garde. Gamal Abina, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, comme d'habitude.
Vous êtes en forme, vous, hein ?
Toujours.
Il est arrivé avec le grand sourire à la
patate. En plus, j'ai une petite parole sympathique pour les Tunisiens. Félicitations. Ils viennent de battre la France 1-0. Et l'arbitrage est exceptionnel. Pour l'instant, pas de triche.
Pas de triche, hein. Rudy Kazi, qu'est-ce que vous faites, Rudy ? Qu'est-ce que vous écrivez là ?
Il s'ennuie,
vous nous le dites. Hein.
Il y a des personnes qui disent des choses tellement intéressantes autour de la table que je suis venu pour les écouter, donc je prends des notes.
Ah bon ? C'est
pas le genre de Rudy, ça.
Non, d'accord.
Non, mais.
Qu'est-ce qui vous fâche là ?
Non, rien du tout. Ah bon ? Par contre, ouais, dommage que la France ait perdu ce match.
Ouais.
Quoique c'était bien d'offrir une victoire à nos habitués.
Non, pas offrir. Ils ont arraché les victoires.
Ouais,
arrêtez de délirer.
C'est une façon de voir les choses. Moi, je trouve bien qu'on ait offert une victoire à nos amis tunisiens. Voilà, ouais. Ça leur met
ils ont gagné.
Pour supporter cette élimination.
Ils ont perdu, ils ont fait un
beau match. Et la France qui tournait à 9 titulaires, 9 remplaçants sur 11, leur a concédé une belle victoire.
Oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais.
Le beau moqueur.
Très mauvais.
Surtout ce but refusé à la fin pour une position d'enjeu très douteuse.
Très douteuse.
Gamal Abina disait qu'il n'y avait pas de cadeau. Moi, je pense qu'il y a un petit cadeau de l'arbitrage.
Il n'y a aucun cadeau, non.
Mais en l'occurrence, je pense que ça dérange à peine vu que la France était déjà qualifiée. Mais...
Moi, je pense qu'il y a des questions à se poser sur la qualité de l'équipe de France aujourd'hui, même si ce n'est pas les titulaires. Mais bon,
c'est des questions qu'on se pose trop souvent, malheureusement.
Monsieur le premier sujet qui a retenu notre attention, vous savez, c'est le port du masque. De plus en plus en question, en débat notamment, avec Elisabeth Borne, la première ministre qui appelle à porter le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans les transports en commun. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que les cas Covid sont en forte augmentation. On parle, non, arrêtez de faire ça, je ne suis pas là pour créer la psychose, mais voilà, c'est le retour, c'est la période hivernale, c'est normal, la grippe qui se mêle, les bronchites, les angines, les rhumes, etc. Jean-Pierre Colombiès. Bon, elle a raison la Première Ministre, non ?
Vous cherchez à nous énerver, a-t-il ou pas ?
Non, énervez-vous si vous avez envie de vous énerver, il n'y a pas de problème.
Si je m'énerve, je vais vous dire pourquoi. Déjà, on va faire très clair que ceux qui doivent se protéger et ont une situation de santé fragile, ce masque, très bien pour eux. Mais il n'est pas question une seconde, de mon point de vue, d'obliger toute la population à se masquer. Ça suffit. Je vous dis, je suis intimement convaincu.
On pose la question dans les transports en commun. Est-ce que le masque est obligatoire, redevient obligatoire ou pas ?
Mais pourquoi ? On va retomber dans la psychose. Quand il était obligatoire, le virus circulait tout autant. Maintenant, ça suffit. Ça devient un cirque, effectivement. C'est un lapsus révélateur.
Ouais.
Le cirque Covid est en train d'être relancé parce qu'ils ont besoin, une fois de plus, de maintenir une pression anxiogène sur la population. Je l'ai dit, je le répète et je reste fidèle à moi-même, on va dire quelque part. Maintenant, il faut savoir une chose intéressante quand même, c'est que les personnes les plus fragiles sont les moins vaccinées. Ouais. Alors, à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on va encore pénaliser 99% de la population parce que certains considèrent que c'est le reste du monde qui doit les protéger et qu'eux-mêmes ne doivent pas se protéger. Bon. Vous savez, je vais terminer là-dessus.
Je suis
intimement convaincu que dans cette période anxiogène où nous avons la guerre, où maintenant on va nous faire croire que le Covid revient, qu'il sera meurtrier. Voilà, la guerre en Ukraine, la Chine, effectivement tout ça, je suis intimement convaincu qu'il y a sur la table de chevet deux ouvrages chez Emmanuel Macron. C'est 1984 d'Orwell et Du mensonge à la violence d'Anna Arendt.
Oh.
Voilà.
Oh.
Cloche. Moi, je dirais plutôt que dans sa bibliothèque, il y a pas mal de Machiavel. De Machiavel. Ça, et ça, il l'a déjà dit. Non,
moi, je pense que... comparé. Les deux mots français qu'il retient. Un saxifrage et un deuxième mot, coriscant. Coriscant. Goriscant. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire ?
Absolument pas.
Ouais. Moi, je parle italien.
Ouais, non, mais le coriscant, c'est être brillant, très brillant. Et saxifrage, c'est une plante qui pousse à travers les pierres. Qu'est-ce que ça signifie, selon vous, quand on décrète que ces deux mots-là sont les deux mots de la langue française que vous préférez ? Et c'est simplement que vous vous qualifiez vous-même.
Ah.
En tant que plante résistante.
Mais il a sérieusement dit ça ?
Il a sérieusement dit ça lors du sommet de la francophonie que va accueillir la France. Et il a répondu ça à une journaliste africaine.
Là, à Djerba, la semaine dernière ?
Oui, elle me pardonnera si j'ai pas retenu son nom, parce que ce qui m'a frappé, c'est la façon dont il a dit ça, parce que c'est deux mots que vous n'employez jamais.
J'ai deux mots que j'emploie régulièrement, c'est hibiscus, synallagmatique. Voilà. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas mal. C'est du droit à une plante, mais
c'est bien
pas
aussi. C'est bien aussi. Non, non, mais
c'est bon, hein, l'hibiscus.
Ces deux mots-là, mais je les ignorais totalement, comme quasiment 99% des gens. Mais c'était évident qu'il parlait de lui une fois de plus.
J'ai beaucoup bu la semaine dernière.
Deux mots signifiant brillance, être brillant, et tenace.
Et de la pierre, quoi. Alors, Gamal Abina, bon, alors, ça fait débat. Hein.
Bon, bah, évidemment, je traduis quand même, il discute. Hein. C'est une plante et synagmatique, c'est un accord bilatéral. Ça, c'est juste pour se la raconter un peu quand on fait du droit. Mais au-delà de ça, non, je pense qu'effectivement, il y a un problème qui se pose aujourd'hui. C'est qu'il y a une situation extrêmement anxiogène qui est liée non pas à la guerre en Ukraine directement, mais à l'économie qui dégrade et une inflation qui est galopante, dont on annonce qu'elle sera à 6000%. Mais on est largement au-dessus, il suffit de voir le panier moyen de la ménagère. Maintenant, pour revenir à la question des masques, je pense effectivement, et là, Jean-Pierre, qui je trouve parfois exagère un peu, mais là pour le coup il a raison, les gens qui sont en situation de fragilité doivent se protéger en se vaccinant, ça ne se négocie pas. Les gens qui ont ce qu'on appelle les comorbidités, ou ce qui ont simplement des détresses, détresses immunitaires, hein, ce qu'on appelle les aplasies, donc les gens qui ont une immunité basse, doivent se protéger. Alors évidemment, malheureusement, ceux qui sont par exemple qui ont un cancer du sang ne peuvent rien faire. Vous pouvez les piquer 20 fois par jour avec le vaccin. De toute façon, s'ils ont des globules blancs très bas, leurs défenses sont basses, donc ils risquent la mort. Et ceux-là, on doit les protéger en les isolant, tout simplement. Et la question de savoir si on doit revenir au masque, j'ai envie de dire que j'ai entendu plusieurs et lu beaucoup d'articles à ce sujet-là. Ce qui semble vraiment chagriner le secteur pharmaceutique, c'est qu'ils ont des stocks importants de vaccins contre la grippe, contre le Covid, tout ça. Et j'ai l'impression qu'ils essaient de liquider leurs stocks. C'est un peu le sentiment que ça me donne. Parce qu'il n'y a pas du tout de détresse. Les hôpitaux sont en difficulté chronique, mais ça n'est pas lié au Covid.
Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas pour la
même raison. Absolument. Il y a une petite augmentation, une suraugmentation, on dira,
on parle de beaucoup de cas quand même.
10%. Non, les cas, le nombre de cas,
mais on parle d'un relâchement dans l'autre côté.
Mais les cas, ce n'est pas des malades.
C'est-à-dire c'est plus que ça. C'est que le cas de maladie Covid, moi, je l'ai eu il y a une seconde fois, c'est 3 jours. Ce qui se passe, c'est qu'il faut faire une distinction entre les morts, là où il y a une vraie détresse, les réanimations, où là il n'y a pas un pic, c'est pas vrai, il n'existe pas, on peut en parler d'ailleurs, le docteur qui va en parler, et puis les malades. Les malades Covid, c'est devenu une maladie normale. C'est une maladie qui va circuler normalement comme une pandémie habituelle, comme la grippe, comme n'importe quel type de maladie, c'est une variante de la grippe. Donc il faut se mettre dans la tête qu'il y aura des gens qui vont l'attraper, c'est normal, il y aura une augmentation en hiver, c'est normal puisqu'elle est saisonnière, mais pour autant on n'est pas dans cette vague monstrueuse, il parle de 8, 9 vagues, c'était ridicule. On n'est pas dans cette première et seconde vague.
La deuxième vague, on parle d'une.
Oui, ça c'est vrai, mettre des vagues à chaque fois qu'il y a un mouvement saisonnier, c'est ridicule. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans cette catastrophique situation qu'on a connue à la première et la seconde vague qui ont été les pires.
Alors, Rudy Kazi, tiens.
Moi, pour ne rien changer, je trouve que la question de remettre le masque obligatoire n'est pas une bonne idée, dans la mesure où on n'est pas sur les mêmes chiffres, ne serait-ce que en 2021, on n'est pas absolument pas sur les mêmes chiffres que 2022, que cette recrudescence, en tout cas de cas qui ne sont pas des formes développées graves de la maladie, ce sont des cas, ça veut dire en fait que c'est des gens qui ont été dépistés, qui savent qu'ils sont positifs du Covid-19, mais qui n'en font pas forcément une grosse infection, une grosse maladie qui n'engorge absolument pas les services médicaux dans les hôpitaux. Je pense qu'il est un peu précipité d'aller sur une obligation de porter le masque. Par contre, il y a des vrais sujets en dehors de ça. Je veux dire, à la limite, si les gens veulent porter des masques, qu'ils en portent à nouveau. Hier, je suis allé dans une pharmacie, on m'a demandé de porter le masque, je l'ai porté. Si je pense que je dois le porter dans les transports en commun, je vais le faire de moi-même. Aujourd'hui, on est arrivé à une telle connaissance du virus qu'à un moment donné, on se connaît aussi physiquement.
C'est-à-dire, oui, il y a un relâchement quand même, reconnaissez-le quand même. Bien sûr,
c'est pas un relâchement.
On l'a presque oublié, le Covid, qu'il existait encore.
Non, c'est pas un relâchement. Les gens se connaissent mieux. Ouais. Non, maintenant, les gens se connaissent mieux, les gens connaissent mieux le virus et ils s'adaptent en fonction de leurs besoins. S'ils sont, moi, je vois toujours des gens mettre le masque avant qu'on en parle. Je vois toujours des gens mettre le masque dans les transports. Parfois, moi aussi, ça m'arrive d'en mettre un. Donc, je le fais en fonction de comment je ressens la situation. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on est quasiment en période hivernale. Bon, c'est le 21 décembre, l'hiver, effectivement. Donc, on arrive à une période où il y a une recrudescence de tous ces virus qui sont les virus hivernaux. Ouais. Donc, j'ai vu et j'ai entendu, je sais plus quel médecin qui en parlait à la télé. Comme quoi, il y a la bronchiolite qui arrive. Je sais bien, je suis un peu touché par la bronchiolite. Et mes enfants aussi. Donc, du coup.
Ça tousse, ça tousse.
Voilà. Et donc, il y a cette concomitance.
Moi aussi, j'étais touché par la bronchiolite.
De virus qui arrive en même temps. Mais parce que on arrive dans la période hivernale. Ce qui est tout à fait normal. Pour moi, véritablement, le vrai sujet, c'est l'inflation. Mais par contre, il y a aussi des sujets qui sont intéressants à discuter. C'est par rapport au Covid-19. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces personnels soignants?
Qu'on interdit de revenir.
Alors que d'autres pays
soignants qui non les vaccinés, avaient. Vous voulez dire.
Non vaccinés, pardon, j'aurais dû le préciser, non vaccinés, qu'on interdit de revenir, ou du moins qu'on garde toujours à la marge de leur emploi, alors que dans d'autres pays, effectivement, ils avaient été interdits
La Grèce.
En Italie, en Espagne aussi, me semble-t-il, ils ont tous été réintégrés, sauf en France. Moi, je pense que c'est pas un sujet sur lequel il faut qu'on fasse de la politique, ça a été un sujet médical, peut-être aussi politique, disons-le quand même. Et une fois qu'on est sorti de cette zone rouge, il ne faut pas que ça reste un problème politique là où ce n'est plus un problème médical. Spécialement dans des zones comme par exemple aux Antilles, où effectivement, il y a peut-être une espèce de petite sanction parce que là-bas, les gens étaient plutôt réfractaires au virus, au vaccin.
C'est la vengeance du maître. Jean-Pierre. C'est la vengeance du maître. Voilà. Bon, mais il y a autre chose.
Ce qui est maladroit pour une zone comme les Antilles qui connaissent déjà d'autres problèmes comme les prix, la vie chère.
C'est explosif dans ces zones-là.
Il faut reconsidérer les choses.
Tout à fait. Non, mais on rajoute de la crispation là où il y en a déjà. Mmh. Mais il y a autre chose quand même. Il y a une hypocrisie absolue dans ce débat sur la santé publique, de manière très globale. Effectivement, il y a les problèmes d'accueil, de personnel dans les hôpitaux. Mmh. On va dire globalement, ça va très mal dans le système hospitalier. Et la panique de ce gouvernement, c'est quand encore une vague, pas seulement de Covid, mais de tout ce qui est médical classique et qui fait qu'à un moment donné, il y a un engorgement qu'on aurait beaucoup de mal à gérer. Mais même une fois qu'on a dit ça, vous avez vu du changement, vous, dans les publicités à la télévision sur l'alimentation? Moi, j'en ai vu aucun. Je regardais hier soir une émission de divertissement, ça change un peu les idées. À chaque coupure pub, j'avais la pub pour quoi? McDonald's, KFC. C'est-à-dire des machines à créer de l'obésité, les machines à créer des futures victimes de quelques virus que ce soit. Parce que dès que vous avez une population obèse, de malbouffe, cardiovasculaire, diabétique, problème respiratoire, respiratoire, si vous avez un virus là-dessus, et notamment un Covid puissant, pas celui qui est là, parce qu'il faut arrêter, celui-là, c'est pas un virus. Là,
le
virus.
Il affaiblit, c'est clair, c'est plus la même chose.
Il affaiblit, point barre. C'est moins sérieux qu'une grippe, je pense.
Oui, largement.
Hein, mais quand vous avez une population qui est nourrie, c'est le cas de dire, avec une telle malbouffe, ben vous la fragilisez, vous la mettez en danger.
Gamal
Abina. Pas une seule contre-publicité sur le sujet.
Ce sera important qu'on rebondisse là-dessus sur l'inflation.
Une chose, Gamal. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 10% des Français qui ne sont pas vaccinés. Pour des raisons légitimes ou pas, on ne rentre pas là-dedans, mais ils ne sont pas vaccinés, ils sont donc exposés un peu plus que les autres. Ensuite, on annonce 88 morts. Donc, en règle générale, c'est plutôt des personnes très âgées qui avaient des comorbidités. Donc, c'est toujours un peu le même scénario.
Peut-être pas mort de ça directement, du reste.
Pas forcément, mais bon, j'accepte les chiffres-là.
C'est vrai.
Ça correspond en gros aux 8000 morts par an de la grippe. Ça, c'est une réalité qu'on retrouve aujourd'hui. Par contre, ce qui me rassure quelque part, ou ce qui devrait nous rassurer, c'est que ce déport d'attention sur le Covid qui avait été abandonné, alors que la maladie restait, j'ai vu les courbes de croissance, on était plus ou moins dans la même courbe. Il n'y a pas eu de pic, c'est pas monté d'un coup, parce que l'hiver est doux depuis le début. Ce qui se passe, c'est que ça rassure parce qu'on se rend bien compte que, parce qu'on parle du Covid, la question ukrainienne commence à être mise en périphérie, parce que la question ukrainienne va être solutionnée bientôt. Zelensky est obligé de négocier par les Américains, on ne le dit pas. Donc ce rapport où il y a une bascule comme par hasard, en s'intéressant à l'autre sujet, je vous montre le doigt, il y a la lumière, regardez, vous ne la voyez pas parce qu'on regarde le doigt. Aujourd'hui, la question du Covid est juste un cache-sexe difficile à expliquer pour le grand public, mais en réalité qui est un divertissement pour ne pas parler du vrai sujet.
Sachant que quand la guerre en Ukraine avait débuté, enfin la guerre, on va dire la généralisation de la guerre, puisqu'elle avait commencé dans le Donbass déjà depuis quelques années, voilà. Tout d'un coup, on n'a plus parlé du Covid-19. Malheureusement, ça avait aussi atrophié, on va dire, le début de campagne présidentielle, notamment du président de la République. Et là, effectivement, on parle un peu moins de l'Ukraine. et le Covid-19 revient majoritairement. Mais par contre, ce qui est vrai par rapport aux personnes âgées qui sont touchées par le Covid, souvent elles ont d'autres maladies à côté. Oui. Et le Covid-19 vient accélérer malheureusement la dégénérescence de la généralisation de la maladie malheureusement. Et à la fin, on ne sait pas trop de quoi la personne est morte. Moi, mon grand-père, on en a souvent parlé un petit peu dans d'autres chaînes l'année dernière, qui est décédé l'année dernière, il avait un cancer de la prostate. Finalement, on ne sait pas si il est décédé de la prostate ou de l'affaiblissement que lui avait causé le Covid-19. Donc c'est aussi un sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans les chiffres de décès dus à la Covid-19, alors que parfois il y a des maladies, une aggravation, parfois sur des comorbidités, parfois sur d'autres problèmes de santé.
On
ne
parle pas de l'inflation.
Il est 19h03. Autre sujet aussi qui retient toute l'attention, c'est les tensions internationales, mais également aussi des enjeux qui sont à venir entre les États-Unis et la France. Deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron qui s'est rendu en ce moment même à Washington. Il a rencontré Joe Biden, chef des États-Unis. Alors, justement, quel programme, quel enjeu, que peut-on attendre de cette visite d'État d'ailleurs, d'Emmanuel Macron? Va-t-il revenir avec une valise plein de contrats, puisqu'on parle.
C'est le contraire.
Qu'est-ce
qui est drôle?
C'est plutôt nous qui faisons des.
Je pose des questions.
C'est nous qui faisons des concessions sur Colombiès.
Non, c'est le. Mais non, mais enfin. Je vais essayer de ne pas être trop méchant.
En tout cas, il se dit que c'est un voyage crucial.
Ah oui, c'est clair. Oui. Mais pas pour ces raisons-là.
Mais voilà, non, mais.
C'est l'Ukraine.
Non, mais soyons sérieux. Mais non. Même pas. La France n'a rien à voir dans. La France ne pèsera nullement. Le gamin l'a très bien dit. Ne pèsera nullement dans la résolution du conflit russo-ukrainien. N'en déplaise au candidat au prix Nobel de la paix, notre cher président qui démultiplie ses...
Prix Nobel de la paix maintenant.
Ouais, ben c'est ce qu'il voudrait.
Non,
mais on va être sérieux deux secondes. Emmanuel Macron ne pèse rien, mais malheureusement, c'est parce que la France ne pèse plus rien dans le concert des nations et dans les négociations, quelles qu'elles soient au niveau international. On est trop dans la dépendance, justement, des États-Unis. Mais Macron l'a dit dès le départ, qu'il était un des alliés, un des piliers de cette relation franco-américaine. Voilà. Donc il va chercher les instructions et on n'aura plus qu'à les accepter. Malheureusement, notre pays est en détresse financière, on est en déficit chronique, on a des crises dans tous les secteurs, hôpitaux, sécurité, justice, enseignement,
export,
partout ça craque, commercialement parlant.
Absolument.
On n'existe plus, on a tout perdu puisqu'on a tout délocalisé et que les relocalisations dont on nous a chanté les gloires, ce ne sera pas avant 10-15 ans si tant est que ça se fasse. Et de toute façon, il va chercher quoi? Il va chercher du gaz?
Non, je pense que...
Alors,
faut savoir que le sous-jacent, c'est un truc très important parce que cette guerre en Ukraine n'est pas une guerre simplement d'un territoire que les Russes voudraient reprendre avec une Ukraine qu'on voudrait défendre, qui serait soi-disant occidentale. Ça, c'est du bidon, ça. La guerre en Ukraine, c'est d'abord une guerre énergétique et c'est une guerre de l'appropriation du leadership énergétique européen. L'Europe est totalement dépendante des énergies qui étaient au départ carbone, donc les énergies russes, 30% du marché. Elle dépend des énergies nord-africaines, elle dépend des énergies moyen-orientales. C'est ce que l'Europe supporte. Elle est un importateur net, à part un peu de charbon en Allemagne et en Angleterre, mais globalement, il n'y a pas de pétrole, de gaz, rien du tout. Et ce qui se passe, c'est que les Américains ont joué un coup très très fin, ils ont poussé effectivement la guerre au maximum, alors que les Européens ont paraffé les accords de Minsk qui empêchaient la guerre, je le rappelle quand même, c'est quand même les Européens, c'est l'OSCE, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis ont poussé à fond leur pion Zelensky qui est prêt à faire une guerre mondiale, lui, faut se rappeler quand même de ce qu'il a fait. Et ce qui se passe, c'est que la question qui se pose, si Macron va aux États-Unis, c'est pas pour le gaz coûte trop cher, ça coûte 10 fois trop cher. Ils savent qu'ils vont revenir avec les Russes. Ils vont aux États-Unis pour leur dire, arrêtez votre politique de, c'est plus le brain drain, mais le brain company. Ils sont en train de capter les compagnies européennes en disant, nous sommes pas chers, on a du gaz de schiste, du pétrole de schiste, venez vous installer chez nous, c'est gratuit, il y a franco de port, il y a rien, enfin c'est des zones franches, j'exagère, des zones franches, venez chez nous. Et les Allemands ne s'y sont pas trompés, c'est pourquoi le premier ministre, enfin le chancelier allemand fait le tour des capitales, parce qu'il commence à s'inquiéter de voir ses entreprises se barrer aux États-Unis. Aujourd'hui, la guerre économique, c'est les États-Unis contre la Chine, qui sera le prochain atelier mondial. Les États-Unis veulent capter, ils veulent vraiment le devenir, ils veulent récupérer toutes les compagnies occidentales qui vont ne pas avoir d'énergie parce qu'elles sont en difficulté, en disant chez nous, c'est pas cher.
Donc l'enjeu pour Macron, c'est
l'enjeu, c'est d'empêcher les États-Unis, et c'est pour ça qu'ils sont concertés avec les Allemands, d'empêcher les États-Unis de récupérer les compagnies. Et vous allez voir que sous peu, la Commission européenne, von der Leyen en a parlé, commence à s'inquiéter de ces manœuvres américaines. Et là, ils en ont marre, parce qu'effectivement, le coup de grâce qu'on porte aux Européens, c'est pas le fait que tout coûte plus cher, c'est le fait qu'il n'y ait plus de compagnies qui vont rester en Europe. Je parle des industries allemandes, en l'occurrence, et tous les pays périphériques qui vont aux États-Unis.
Ça, c'est préoccupant. Redis quasi.
Ça fait un moment que les États-Unis veulent faire main basse sur les industries françaises. Rappelez-vous le projet TAFTA, etc., ces trucs-là, qui faisaient main basse parfois sur des produits estampillés France, quoi, comme le vin, le Bordeaux, etc., ces appellations d'origine contrôlée que les Américains voulaient récupérer.
Ou Alstom, simplement, Alstom, disons.
Alors Alstom, bien sûr, certains pans de Alcatel aussi, que General Electric avait récupéré, évidemment. Donc c'est surtout ça le problème, parce que les États-Unis veulent retrouver une hégémonie sur le plan économique et damer le pion. Alors effectivement, à la Chine, c'est... Mais d'une certaine manière, on est sur l'économie, mais on est aussi sur... Voilà, le vieux poncif d'une civilisation triomphante, quoi. Mais aujourd'hui, une civilisation triomphante, elle ne l'est plus par la guerre. Elle l'est par une hégémonie économique, etc. Donc, en même temps, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je pense que l'aspect civilisationnel pour la Russie ou pour les États-Unis, elle existe dans la question économique, ou bien dans la question économique, la question civilisationnelle existe aussi. C'est une forme d'hégémonie.
L'impérialisme.
Voilà, c'est... moi, je pense qu'effectivement, après, il y a le discours officiel. Mmh. Emmanuel Macron y va, soi-disant, pour obtenir plus de gages de Biden sur la question des entreprises européennes qui iront aux États-Unis. On a plutôt parlé de l'énergie renouvelable, éventuellement des subventions de l'économie américaine pour permettre à certaines entreprises de diminuer leurs coûts de production, etc.
C'est le dumping social.
C'est le discours officiel. Mmh. Mais rien que ça, c'est déjà offensant. Comment ça se fait que on en vient en fait carrément à demander aux Américains des subventions pour amortir l'inflation des entreprises qui doivent supporter ce coût des entreprises européennes. C'est quand même extraordinaire, tu vois. Non, mais c'est ça en fait, quelque part, dans le discours officiel, c'est pour pouvoir amortir l'inflation que subissent les entreprises européennes.
Atténuer l'inflation, pardon.
Amortir, atténuer, c'est la même chose.
Non, c'est pas tout à fait.
C'est l'économie, c'est autre chose, amortir. Ouais, enfin bref, il s'agit en fait de ça. Donc de l'économie américaine pourrait accorder, enfin le gouvernement américain pourrait accorder des subventions.
Il est dans l'indépendance.
Il est dans l'indépendance
que la France a perdue, clairement.
Parce que là, du coup, l'Europe ne joue pas son rôle de bouclier.
Oui, mais on se disait, la plupart des politiques se disaient des héritiers de De Gaulle. Enfin, De Gaulle est bien mort, et on s'en rend compte tous les jours. De Gaulle était un républicain social, et on a bien vu que la succession des présidents qui sont arrivés après, c'était une dégringolade totale vers un ultralibéralisme qu'on maîtrise plus. Alors c'était un ultralibéralisme triomphant pendant très longtemps, sauf qu'on y a perdu notre âme, et qu'aujourd'hui on est juste à un 53e état des États-Unis. Et Macron ne l'a jamais renié. Au contraire.
L'atlantisme, Macron, le sait très bien.
Mais il a eu beau clamer qu'il était le nouveau De Gaulle. D'ailleurs, je ne sais pas où il a vu cette référence-là.
Parlait pas l'anglais, déjà.
Non, je ne sais pas où il a vu cette référence-là, mais c'est l'anti-de gaullisme par excellence, Macron, justement.
Surtout que là où De Gaulle a été fort, c'est que... alors que il y avait le plan Marshall qui se mettait en place, il avait réussi quand même à négocier, on va dire, une place plus prépondérante pour la France que de ne pas céder la France au travers de tous ses endettements.
Et tout ça grâce aussi au développement des programmes nucléaires, au programme nucléaire qu'on a bradé, qu'on a laissé tomber, par Hollande d'abord, et puis après Macron qui s'est fait fort pour racoler l'électorat gauchiste et surtout écolo, en disant, bon, c'est bon, on va laisser tomber, on va aller vers les éoliennes, et on se rend compte aujourd'hui que c'est une vaste, vaste fumisterie. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. On a nos centrales ne fonctionnent pas comme elles le devraient. On en a même fermé une.
Pourquoi ? Parce qu'elles sont pas en état de fonctionner.
Et pourquoi elles sont pas en état de fonctionner ?
Parce qu'on a
pas entretenu.
Mais bien sûr, c'est ça.
Voilà.
Et aussi les centrales qui sont en fin de vie aussi.
Et on se pend nous-mêmes, quoi.
On est parti ouvrir des centrales électriques.
L'énergie est centrale, effectivement. Mais je pense que l'autre inquiétude qu'on doit avoir, parce que la France a bradé beaucoup de bijoux de famille aux États-Unis avec l'histoire d'Alstom et tout un tas de scandales comme ça qui ont été, ils ont dû racheter au prix de l'or quelque chose qu'ils ont vendu à bas prix. Non, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question la plus inquiétante, c'est que les deux grandes puissances industrielles européennes ne sont plus les Français, évidemment, ni les Anglais, c'est juste une place financière. Les deux grandes puissances, c'est l'Allemagne et l'Angleterre, et les pays périphériques de l'Allemagne. C'est-à-dire l'ancien giron allemand, tout ce qui est Bulgarie, Pologne, tout ça. Donc ces pays-là commencent à ressentir effectivement la manœuvre américaine grossière. Et si ces pays-là sont impactés dans leur industrie, l'Europe ne vaudra plus grand-chose. Et ce qui se passe, c'est quand Macron va aux États-Unis, qui est un atlantiste, il parle anglais couramment, D'accord. Il est amoureux du système américain. Il ne se cache même pas du fait qu'il a envie de privatiser tout un pan de l'économie jusqu'au social.
C'est ce qu'il est en train de faire.
Il est en train, voilà. Donc il privatise. Il met une pression sur le public pour que le privé prenne le relais. Eh bien aujourd'hui, on a un homme politique qui se rend compte qu'il a été aussi blousé, il s'est fait avoir, qui va aux États-Unis en affichant un discours bidon de soi-disant captation de l'argent. Mais les États-Unis ont fait un plan, un immense plan Marshall pour eux. Ils ont fait en sorte que les entreprises s'installent chez eux, que ça ne leur coûte pas cher. Et que l'énergie coûte pas cher et qu'il n'y ait pas d'impôts. Voilà ce que font les Américains. Mmh. Il y a une loi qui est passée récemment dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, la peur européenne qui est légitime, c'est pas d'avoir une Chine qui est en concurrence avec elle, puisque la Chine est en concurrence avec le monde entier. C'est de se retrouver complètement spolié de ses richesses vers les États-Unis, qui deviendront la grande puissance contre la Chine, et les Européens deviendront effectivement que des États satellites.
Et on nous fait croire pendant ce temps-là que la Russie est le grand
délire. Franchement, faut pas que ça arrive.
On va juste faire une pause, la dernière d'ailleurs, de la tranche pour une dernière ligne droite. On va parler d'inflation, la hausse des prix dans l'alimentation, et on parlera aussi de la Chine. A tout de suite, messieurs. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 10-19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h18 en live, on se mercredi 30 novembre, dernier jour du mois de novembre. On va s'activer pour rentrer dans cette période de fête de fin d'année. Et oui, avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Rien de plus simple pour essayer de remporter de magnifiques cadeaux. Et bien nous, on vous le fait remporter, ce magnifique cadeau ce soir. Vous nous contactez, le 01 53 48 3000. C'est la Coupe du Monde en ce moment au Qatar 2022 et on vous fait remporter le guide de cette fameuse Coupe du Monde. C'est un guide, un magnifique ouvrage, avec toutes les infos concernant cette Coupe du Monde au Qatar.
Est-ce qu'on a le vainqueur dans le guide?
Ah ben non, ah bon, peut-être pas, je crois pas. On a les potentiels vainqueurs, mais on n'a pas le grand vainqueur. Viviens, avec ta boule de cristal, peut-être tu nous donneras.
Moi je suis déçu. On n'a pas le vainqueur, je suis déçu.
Ah ben oui, peut-être Mourad, l'auditeur, va nous le donner. En tout cas, on revient à toi.
Guide au moins des bonnes adresses au Qatar.
Arrête, Vivien. Peut-être. Peut-être. Vraiment. Il y a des boutiques.
Il n'y a plus les petits trucs Panini à l'ancienne. On pouvait accrocher dans notre chambre.
Il y a toujours l'album Panini. Panini est toujours là. Un petit clin d'œil aux albums Panini. Ils font le boulot, les albums Panini. On est avec Rudy, on est avec Chekib, sans oublier Vivien et Alexis pour m'accompagner jusqu'à 21h. 21h, 23h, c'est Vanessa. On revient à toi, Vivien. Parler de Tunisie-France. La Tunisie a remporté son dernier match de ce mondial face à l'équipe de France qualifiée pour les huitièmes de finale avec l'Australie. Et c'est vrai que, justement, on en parlait avec Mourad, c'est un peu tristouné pour les Aigles de Carthage.
Bien sûr, c'est super triste. Alors forcément, comme a dit Mourad, ou comme je pense on sera tous d'accord pour dire vraiment ce deuxième match contre l'Australie, il n'était pas abouti, ils n'ont pas été réalistes, même je pense qu'ils n'ont pas osé, tout simplement, ils sont passés à côté. Et pourtant, il y a un point, moi, que je trouve intéressant, c'est que je trouve que le championnat tunisien, il est de plus en plus intéressant. Alors, pour rappeler aux auditeurs, il y a deux poules de 8. En ce moment, il y a la poule A aussi, qui est dominée par l'Espérance de Tunis, et la poule B par Guerdane. Alors, j'ai peur de mal prononcer. Mais pour donner un indice de la qualité, c'est que le club africain qui est dernier du championnat a deux internationaux qui sont Nader Gandri et j'ai peur aussi de mal le prononcer, qui est le troisième gardien dans l'équipe actuellement. Donc ça prouve que le championnat, je trouve qu'il est vraiment pas mal et que voilà, c'est une bonne base pour beaucoup de joueurs qui ont entre 25-27 ans, qui retournent un peu jouer là-bas, qui ont des expériences européennes, se sont mal passées. Il y a un vivier à développer là-bas, je trouve.
Non, mais je suis d'accord. Et puis, je reviens sur ce que disait Mourad tout à fait justement. C'est qu'effectivement, peut-être que pour l'instant, les Tunisiens ont plus de mal à s'exporter que les Algériens, par exemple, ou que certains Marocains, mais que ça va peut-être donner des idées en voyant la Tunisie jouer, faire des très bons résultats contre la France, contre le Danemark. Ça va peut-être donner des idées à certains recruteurs pour faire venir plus de Tunisiens ou aller les chercher sur place et les faire venir jouer en Europe. Donc, finalement, ça, c'est positif. Après, effectivement, il y a beaucoup de regrets. Même le premier match, Mourad l'a très bien souligné, même le premier match contre le Danemark, il y a des regrets parce que si la Tunisie gagne ce match, c'est absolument pas scandale. Donc c'est vrai que d'être passé si près et de finir comme ça, ça doit être...
ils doivent s'en mordre les doigts. Allez, on a des réactions ce soir. On a Diana qui nous écoute sur le périphérique, sans oublier Guillaume et Nawaz, deux gros supporters du Paris Saint-Germain. Il nous dit ce soir, vous verrez le, j'allais dire le PSG, oui, tout comme. C'est l'Abyss Céleste, c'est plutôt la Seleção brésilienne qui gagnera cette fameuse Coupe du Monde. Voilà, c'est le Brésil selon Guillaume et Nawaz qui remportera ce trophée qui est la Coupe du Monde au Qatar. Mourad, on revient avec vous, le 01-53-48-3000 depuis Marseille.
Oui, Bilal. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Vivien.
Et Alexis.
C'est bien parce que tu as surveillé de près le championnat tunisien. À savoir que cette nouvelle mesure qui a été prise, c'est parce que certains clubs allaient mettre la clé sous la porte.
Ouais.
À savoir qu'en Tunisie, actuellement, il y a un problème socio-politique et économique. Un peu partout dans le monde, mais dans un pays comme la Tunisie, c'est encore plus compliqué. Et pour te dire, parce que moi, j'ai des amis, des cousins qui sont partis au Qatar voir la Coupe du Monde, et ils ont fait des économies. Je peux te dire qu'après le match contre l'Australie, ils n'emmenaient pas large, ils étaient mais très, très en colère, en se disant, mais comment c'est possible qu'après ce match contre le Danemark, on aurait pu gagner? Ils nous font une telle prestation. Et il faut savoir que pour des personnes venant de Tunisie ou du Maghreb, c'est compliqué. C'est compliqué financièrement, économiquement, de se rendre au Qatar. Il faut savoir que c'est pas donné, même pour des supporters de l'équipe de France, de se rendre là-bas et de prendre un billet. Bien sûr, il faut trouver un endroit pour dormir et tout. C'est compliqué. Alors, imaginez la différence quand c'est des pays du Maghreb ou d'Afrique. Heureusement que, par rapport à l'équipe de France, la Fédération tunisienne de football a donné un coup de pouce aux supporters tunisiens. Ils étaient plus d'une 30 000 ou 35 000, parce qu'il faut savoir qu'il y a des ressortissants aussi tunisiens qui sont au Qatar. Mais le problème, c'est que il y a des bonnes choses et des bons points positifs. Pour tenir ces points positifs, il faut chasser le négatif, il faut construire les centres de formation à travers les clubs, comme tu l'as dit, parce que le plus grand club en Tunisie, c'est l'Espérance de Tunis, le plus titré en Tunisie, mais aussi en Afrique. Et les clubs tunisiens sont souvent dans le dernier carré des coupes africaines de clubs. Il faut qu'ils développent le football à travers la jeunesse. Et ils développent surtout les joueurs à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de qu'ils s'exportent et que ça devienne une plus grande nation footballistique à travers l'Afrique, mais aussi le monde.
Et moi, je voulais te demander, pour toi, est-ce que tu penses que le sélectionneur peut être celui... Est-ce que pour toi, il doit continuer à être cadré, selon toi?
On peut lui donner encore la l'opportunité de continuer. Pour moi, en Tunisie, là, le bruit qui court, c'est vu ce qu'a fait Hervé Renard avec l'Arabie Saoudite. La fédération.
Tout le monde veut son Hervé. Même moi, je vais aux enfants de la goutte d'or pour te donner.
Arrête, ils sont sympas.
Non, mais après, c'est Kadri, c'est un entraîneur. Mais moi, ce que je souhaiterais, et Bilal, il le sait, on en a parlé suffisamment, c'est que, des mecs comme Djamel Belmadi ou Aliou Cissé passent sous les sabots d'un cheval. Mais pourtant, il y a des joueurs, anciens joueurs de la génération 2004, qui était la génération dorée qui a gagné la Coupe d'Afrique en Tunisie. Ils sont devenus entraîneurs. Moi, je pense que...
Mais il faut prendre. Rudy est d'accord aussi, c'est vrai.
Pourquoi pas garder Kadri et mettre un ancien joueur qui peut donner encore plus de directives et être assistant de l'entraîneur pour transmettre, en fait, ce qu'ils ont vécu, eux.
Ouais.
Exact. Je pense
la transmission, c'est ça.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'entraîneur, le sélectionneur Djalal Kadri a fait du très bon travail qui mérite de rester en poste.
Il est pas passé, quand même.
Non, mais attends.
Laisse-le. Mais laisse-le, Vivien.
Il n'est pas fautif à 100%.
L'auditeur a raison, Mourad.
Il finit quoi avec 0 points, les Tunisiens?
Quand même. Voilà.
Ok, mais il ne joue pas la Champions League non plus.
Ben oui, Vivien.
Vous parlez de l'équipe du Portugal, t'as vu l'équipe du Brésil, t'as vu l'équipe de Tunisie. Donc non, il a fait du très très bon travail. Je pense que il faut arrêter la valse des entraîneurs pour. C'est pas une baguette magique. C'est pas tu changes le sélectionneur, c'est bon, tout va changer. Bien sûr, tout le monde veut Hervé Renard et tout. Mais pour l'instant, on ne sait pas si Hervé Renard va rester. Et tout le monde aujourd'hui lui fait les yeux doux. Ça se peut imaginer, il prend 4-0 ce soir. Dans deux heures, plus personne ne veut de lui.
Ah ben voilà. Là, il a pas tort. Il fait rire tout le monde.
Jelal Kadri, il a fait, il a eu le choix du roi. Une défaite, un match nul, une victoire. C'est très prometteur pour l'avenir. On l'a dit, il y a des jeunes joueurs. Là, ils vont avoir une canne pour faire leur preuve. Et j'espère, la prochaine Coupe du Monde, ils passeront ce palier. Parce que le monde, ce n'est pas construit en un seul jour. Et on ne construit pas une équipe en un seul jour. Palier par palier, la Tunisie va aller plus loin.
Non, mais il faut le laisser continuer.
Alors, on dit.
Il faut laisser continuer de bosser. Ça me paraît logique. De toute façon, dans la mesure où. Déjà, il les a emmenés jusque-là, déjà. Il faut le dire, ouais. Il les a qualifiés pour la Coupe du Monde.
Mais ça, c'est bien.
Parce que quand ils ont fêté leur qualification pour la Coupe du Monde. C'était déjà pour eux la promesse de se confronter à des grandes équipes, etc. Donc c'est déjà un premier palier. On peut pas non plus se targuer d'être arrivé là et puis comme si c'était le seul objectif. Effectivement, l'objectif de sortir des poules n'a pas été atteint, mais c'est normal. On avance petit à petit. Par exemple, le Sénégal s'était pas qualifié pour une Coupe du Monde depuis longtemps. Là, ils se sont qualifiés pour une Coupe du Monde, mais en plus de ça, ils se sont qualifiés pour les huitièmes. Derrière, l'objectif pour se qualifier, ça va être d'aller dans les quarts, ce que n'avait pas fait la génération des Bouba Diop, etc. Ouais, donc, mais c'est comme ça, une nation, ça met parfois des décennies pour faire des petits pas, des petites avancées,
et en France,
etc.
Et en France, on est bien placé pour le savoir.
Évidemment. Hein. Oui. Donc faut lui laisser, je pense, encore le temps de travailler, parce qu'en plus, ce qui est intéressant sur cette génération, sur cette équipe de Tunisie, il y a quelques anciens joueurs, entre guillemets, il y a une jeune génération. Donc ça veut dire qu'il faut profiter aussi de ta capacité à pouvoir transmettre des flambeaux et à continuer à éduquer entre guillemets une équipe pour la ramener plus fort dans 4 ans en utilisant les cannes qui va y avoir pour continuer à faire progresser cette équipe. Donc par faut contre, le garder, c'est tout.
Comme il disait l'auditeur, par contre, bien sûr,
elle est avec nous encore moi.
Enrichir le staff, c'est une excellente idée, effectivement, parce qu'il y a, il faut jamais oublier, parce que souvent on parle des sélectionneurs ou des entraîneurs dans les grands clubs et tout, mais le staff est très important. Et quand on l'enrichit avec des gars d'expérience, des gens qui font le lien, ou que des fois même t'es coincé sur le terrain, tu sais pas quel coaching faire. On a vu tous les grands entraîneurs et les grands sélectionneurs, ils ont leur assistant. Deschamps, il a un très bon assistant. Zidane a un très bon assistant. C'est très important d'enrichir le staff, ne jamais oublier.
Alexis, on poursuit avec les Tunisiens, mais aussi cette équipe de France, hein.
Ah oui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces deux premières victoires qui étaient quand même assez impressionnantes, on serait tous inquiets aujourd'hui. Voilà, moi tout à l'heure, j'entendais dire que peut-être Deschamps aurait pu tirer des enseignements de ce match. Je comprends d'un certain point de vue, mais d'un autre côté, bon, est-ce que c'était pas finalement un match pour rien qu'il faut laisser derrière nous? Voilà, il y a eu les deux premiers matchs avec l'équipe A qui se sont très bien passés, où on a vu du jeu qu'on n'avait pas vu, notamment contre le Danemark à la fin de l'année dernière. Donc moi, j'ai été rassuré sur ces points-là. Effectivement, peut-être ça dépendra aussi du tirage des matchs de ce soir.
Parce que
c'est vrai que je vois l'Arabie Saoudite.
Zéro partout entre l'Arabie Saoudite et le Mexique, groupe C, et aussi Pologne-Argentine, pareil. Hein.
Donc c'est pas la même chose de jouer la Pologne, l'Argentine ou l'Arabie Saoudite. Hein. Alors, c'est des problématiques qui vont être différentes, mais on se souvient du match en 2018 contre l'Argentine, c'était pas passé à grand chose de qu'on finisse dehors. Donc franchement, je suis
bien sûr.
Ouais, voilà.
Ah ben justement, on verra si on aura ce but de Pavard ou autre. En tout cas, si on tombe contre l'Argentine, Mourad, il reste avec nous. C'est l'auditeur. On a aussi Fouad qu'on va faire réagir concernant cette fameuse équipe de France. Alors, on va faire un duo avec Fouad. Bonsoir Fouad. Oui Fouad, il est avec nous Fouad.
Oui,
il est là Fouad. Allez, Fouad. Comment ça va Fouad?
Ça va très bien, merci
à vous. Ça va très très bien Fouad. Hein, ça fait un petit moment qu'on s'était plus eu. Fouad, on fait remporter un magnifique ouvrage ce soir. C'est le guide de la Coupe du Monde au Qatar. On va vous le faire remporter, ça c'est oblige. L'équipe de France, allez, qualifiée pour les huitièmes de finale. Malheureusement, les Tunisiens n'y passeront pas ces matchs de cette phase de poule. Et oui, on aurait aimé une nouvelle nation africaine en huitième, mais non, ça l'a pas fait. Alors on vous écoute.
Ouais, un petit mot pour la Tunisie déjà. J'aurais aimé qu'il passe. Et malheureusement, quand on peut pas gagner un match, faut tout faire pour ne pas le perdre. Et contre l'Australie, ils ont pas su le faire malheureusement, parce que s'ils ne perdent pas ce match, ça leur fait un point en plus et deux points en moins pour l'Australie, et la Tunisie se retrouve en huitième de finale. Donc ce qu'on va retenir malheureusement, moi je retiens en tout cas, c'est pas la victoire contre la France, c'est la défaite contre l'Australie malheureusement.
Eh ouais.
Ensuite, pour rebondir sur la France.
Alors l'équipe de France.
Moi, je suis pas fan de faire tourner les effectifs pour le troisième match. Je suis pas fan, je préfère
garder. Boula le disait aussi. Boula, ça peut dérégler Fouad, hein. Vraiment, moi, toute une équipe. Ouais. Non, alors.
Je préfère que les joueurs jouent et continuent d'enchaîner les matchs, et continuent de trouver des automatismes, parce que c'est aussi pendant les matchs. C'est pas, je trouve qu'on travaille mieux en match qu'à l'entraînement, je trouve. Et en condition de match, du moins. Et en fait, c'est pour ça. Je préfère une équipe type sur les trois matchs, même si on est déjà qualifié, même si on est sûr d'être premier, plutôt que de faire tourner, de se retrouver avec une petite défaite, et voilà. Donc on les voir titulaires pour complément.
J'entends tout à fait ce que tu dis, Fouad, mais après, je pense que ça a aussi des avantages de faire tourner, c'est-à-dire que si demain, t'as un des mecs du 11 titulaire qui se blesse et qui ont fait jouer en 8e. Je pense que ça permet aussi de concerner tous les joueurs, que tout le monde tire dans le même sens et qu'il n'y ait pas les mecs qui se disent « Oui, bon, bah, de toute façon, je vais faire le banc jusqu'à la fin de la compète. » Et quand tu vas les mettre en quart ou en demi, bah, ils vont se rendre compte qu'en fait, non, c'est une compétition qu'ils ne connaissent même pas.
Ouais, c'est exactement ça. Après, c'est ça, c'est une gestion de groupe. C'est une gestion de groupe et... C'est pas facile à faire, mais
non, c'est sûr.
Que si j'avais été coach, j'aurais essayé de faire
un jeu de faire.
Non, mais c'est un point de vue qui
ouais,
se défend.
Fouad, alors, sais. C'est qui avec Fouad voilà. Et Mourad au-delà, aussi, l'auditeur.
Au-delà de faire tourner, ce qu'il faut garder en tête, c'est que effectivement, quand tu pars avec 23 ou 26 joueurs et tout, tu pars pas avec 11. Ça veut dire que tu les prends pas comme ça, comme des roues de secours. C'est vraiment des éléments importants. En plus, c'est vrai que là, l'équipe de France, c'est peut-être historique ou c'est un record, le nombre de blessés qu'on a eu. Imagine une seule seconde qui titularise Mbappé tout le match et Mbappé se blesse. Mais tout le monde aurait démonté Deschamps.
Ça, c'est vrai.
Alors, mais attends, c'est pas la peur. Écoute, c'est pas la peur. Regarde, Benzema, Pogba, N'Golo Kanté, Varane qui revient de blessure. Mais l'équipe, elle est décimée.
N'importe quel joueur peut se blesser à n'importe quel match. Mbappé n'aurait pu se blesser au premier match.
Et même à l'entraînement
aussi.
Mais pas un match qui compte presque pour du beurre. Parce qu'il a compté pour du beurre. Le premier, même si on l'a perdu.
Fouad, vous restez avec nous, avec Mourad, c'est promis. On va les garder. Ils sont bons les auditeurs ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Vraiment, on va revenir. C'est promis sur le Maroc qui rencontrera justement demain, qui fera son dernier match de poule. Et aussi, on va donner la tendance sur le fil rouge de la soirée avec l'Arabie Saoudite, la 32e, 33e minute face aux Mexicains et aussi la Pologne face à l'Argentine. A de suite, chers auditeurs de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. 19h30, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, la dernière partie avec Chekib, toujours là. Chekib, eh oui, bien habillé ce soir, Chekib. Hein. Ah, un petit rendez-vous peut-être avec la Fédération Française de Football. Eh oui, le porte-ferment.
Sapé comme jamais.
Sapé comme jamais avec ce magnifique. Survêt, hein, de l'équipe de France. Exact. 20h38 minutes avant d'accueillir Vanessa, 21h avec Vivien, toujours là lui aussi, Vivien. On va bien se régaler après, hein. Je sais pas si on ira du côté de la Guesmer ou encore aux abords de la radio. Et avec nous.
Est-ce qu'il y a des restaurants qataris ou des trucs à Paris?
Je sais pas. Alexis est avec nous aussi, hein. Waouh. C'est
Time Sport. La parole des sociaux.
Voilà, on a un réalisateur. Non, on a un réalisateur. Il te fait des passes à l'aveugle, tout comme Ronaldinho Gaucho. Ah, la belle époque.
Ouais, mais tu l'apprécies, mais pas.
Bien sûr. Voilà, il est pas mal.
Messi vient de rater un pénalty.
Aïe. Messi vient de rater toujours 0 partout dans ces deux matchs de ce groupe C. On le rappelle, l'Arabie Saoudite qui rencontre les Mexicains et aussi la Pologne de Lewandowski qui rencontre l'Arabie Céleste de Léo Messi, l'Argentine. Mourad est avec nous. Et
très belle arrêt du gardien, pardon. Très belle arrêt du gardien.
Ah, ben voilà. On va s'attarder, on va revenir sur l'équipe de France rapidement avant de parler d'Hervé Renard et aussi des Lions de l'Atlas, la sélection marocaine. Avant cela, on aimerait parler aussi de la FIFA. La FIFA qui ouvre une enquête suite à des insultes racistes contre le gardien canadien d'origine serbe. Le portier canadien d'origine serbe a essuyé des insultes de la part du public croate lors du deuxième match de la sélection canadienne au Mondial. On rappelle aussi, selon nos informations, mais aussi certaines personnes dans le stade de ce fameux Tunisie-France, des chants racistes aussi, des insultes ont été émis à l'encontre de joueurs de l'équipe de France. Allez, peut-être des réactions avec Vivien et aussi Chekib, rapidement.
Moi, je voudrais rappeler, on joue, on rigole et tout, mais le racisme est toujours, systématiquement grave et condamnable. Quelle que soit l'équipe, quelle que soit victoire,
défaite, on condamne tout ça.
On sans réserve, sans condition, le racisme est toujours prohibé. Même pour certains supporters qui pensent « Ah, je dis ça juste pour le chambrer, pour le faire sortir de ses gants, pour faire en sorte qu'il rate son pénalty. » Non, le racisme, c'est non, c'est niette, jamais aucune excuse.
Ouais, ça c'est bien dit. Vivien, rapide.
Non, raciste. Enfin, c'est la bêtise humaine. Malheureusement, elle est toujours présente.
Elle est toujours là.
Donc,
c'est triste.
Faut combattre ça et puis c'est tout. Hein.
Allez, ils sont avec nous encore. Mourad, Fouad. Bon, on a une réaction de Lisa qui nous écoute ce soir. Elle nous dit laissez les générations mûrir, Chekib. Comparez ce qui est comparable. Les nouvelles générations apprennent plus vite. Ils comprennent les enjeux. Et aussi, ces pays africains, Vivien, Alexis, se modernisent et vont petit à petit se donner plus de moyens pour réussir. Ah ben ça, c'est bien dit, Lisa. Alexis, réaction.
Ah oui,
on parlait de Tunisie, on parlait de France.
Justement, on va parler du Maroc après. C'est que je crois que le Maroc, le travail qu'ils ont fait ces dernières années commence à porter ses fruits. Moi, quand j'ai vu le groupe avec la Croatie, la Belgique et le Canada, très franchement, je donnais pas forcément très cher de leur peau. Et là, ils me font mentir. Ils font des matchs solides, cohérents. Et je trouve ça, enfin voilà, c'est très bien pour le football africain. Le Sénégal au deuxième tour. Le Cameroun, ça risque d'être plus compliqué. Pour le Ghana, ça risque d'être plus compliqué. Mais enfin, franchement, il n'y a pas à rougir. Le football africain se développe de plus en plus. Et c'est très bien pour le football en général, de toute façon.
Et ça fait vraiment du bien avec ces sélectionneurs, ces nouveaux sélectionneurs, ces anciens et toute cette pléiade de stars du football africain et pas que. Alors, on va passer à Hervé Renard.
Time Sport, le mode pressing.
Il y a pas mal de choses à dire là concernant Hervé Renard. Et oui, il a été et il est toujours un magnifique entraîneur. Il fait du bien aussi ce Hervé Renard avec l'Arabie Saoudite. Et on aimerait justement voir l'Arabie Saoudite se qualifier pour ses fameuses huitièmes de finale. Chekib, Vivien et aussi avec nos auditeurs Mourad et Fouad, à mon avis qu'ils ont. Ah voilà, ils aimeraient réagir aussi concernant Hervé Renard, l'entraîneur.
Moi, ce qui me plaît beaucoup avec cette équipe d'Arabie Saoudite, c'est effectivement bien sûr l'entraîneur que j'adore, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais aussi on voit qu'ils sont présents techniquement et tactiquement. C'est-à-dire la tactique, c'est une chose, mais la technique, le but qu'ils ont mis contre l'Argentine, le deuxième but de l'Argentine, mais c'était un but de Messi. C'était un but de Messi contre Messi. C'est incroyable comment il a dribblé tout le monde et comment il a bien placé sa frappe. Et vraiment, cette équipe d'Arabie Saoudite fait plaisir sur le banc et sur le terrain. C'est pour ça qu'on aimerait bien qu'ils aillent plus loin pour continuer à voir le spectacle. Et j'en profite juste
alors,
pour parler. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé sur l'Australie. Elle est qualifiée. C'est vrai que c'est l'équipe la moins belle du groupe. On aurait voulu voir la Tunisie. On aurait voulu voir le Danemark. Mais il faut savoir une leçon très importante qu'il faut apprendre.
Alors, laquelle ?
Le foot, c'est pas que du spectacle, c'est aussi la réalité du terrain.
Bien sûr.
L'Australie, même si c'est une équipe moche, pour l'instant, peut-être qu'elle va changer, mais elle a gagné d'une manière moche, elle s'est qualifiée d'une manière moche, mais c'est ça, c'est l'efficacité. Ils ont bloqué l'adversaire, ils ont annihilé l'autre équipe, ils ont mis leur but et ils ferment. Et c'est une technique, ça a marché pour la Grèce qui a gagné.
Avec Fouad et Mourad, on aimerait revenir concernant l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Messieurs, on vous écoute. Nos auditeurs de ce soir.
Déjà, ce qu'il a fait avec la Zambie, c'est incroyable.
C'est vrai. 12. Merci de nous rappeler, Fouad.
Déjà. Ensuite, champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire.
Ouais, il a vraiment libéré un cap en Côte d'Ivoire. Parce
c'est exactement ça. Il les a soulagés, mais je ne sais pas ce qu'il a fait avec eux, mais en tout cas, ils ont franchi un cap. Et là, éliminé après les deux premiers matchs. Je crois que c'est jamais arrivé pour l'Arabie Saoudite.
Oui.
Là, il est peut-être qualifié pour les huitièmes. Il bat l'Argentine de Lionel Messi, qui est favori.
Ouais.
Mais il peut arrêter sa Coupe du Monde, ça y est. Il peut arrêter même sa carrière.
Non, il faut pas qu'il en ait, justement. Il faut qu'il en profite. S'il peut même faire un huitième ou un quart, faut justement qu'il aille au bout de son parcours.
J'aimerais bien qu'il aille en huitième, parce que vraiment, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et je pense que en huitième, il peut se retrouver face à une équipe.
Ce sera
le
groupe
pas du niveau de
l'Arabie
Saoudite,
France,
mais. Mais du, ah oui, c'est du groupe de la France. Donc
il croise avec le groupe de la France, c'est soit France, soit Australie, du coup.
Ouais. Soit France ou Australie, mais s'il joue contre l'Australie, je veux pas qu'il se voit trop beau, mais je pense que l'Arabie Saoudite sera en quart de finale. Ce qui serait incroyable.
Un France-Arabie Saoudite, moi je dirais attention.
Ah ouais,
attention, certes, mais la France, ça reste la France.
qui a envie de donner une leçon peut-être tactique à Deschamps. Donc,
même si est bien placé,
la France a beaucoup plus de qualité intrinsèque en termes de joueurs, mais un 8e France en Arabie Saoudite, moi je dis attention.
Eh oui, Fouad.
Bien sûr, mais bon, l'Arabie Saoudite a plus de chances contre l'Australie que la France quand même.
C'est vrai.
Ah oui, oui,
ça, oui, bien sûr, mais Asie, attention. C'est...
Attention.
Ah oui, attention, c'est sûr, certainement. En tout cas, Hervé Renard, chapeau, et on attend de voir sa prochaine destination.
On reste ensemble, Fouad. Il reste avec nous. On va revenir sur l'équipe marocaine. Mourad, avant de donner la parole à notre réalisateur qui aimerait aussi s'enorgueillir concernant aussi ce football asiatique, voire avec ces sélectionneurs français qu'on ne retrouve plus justement dans notre propre championnat. Mourad, alors
Mourad. Non, mais Hervé Renard, c'est beau parce que c'est une revanche sur les critiques qu'il a subies quand il était entraîneur en France, en Ligue 1.
Le mal aimé.
Rappelez-vous.
À Sochaux,
voilà, Ligue. Le mal aimé. Et surtout, on l'a mis en confrontation avec Duprat. Il est où, Duprat?
Il n'est pas là.
Voilà, il n'est pas là.
Bah, tu pourras le voir bientôt dans des médias comme nous. Hein. Non, c'est vrai, il sera bientôt dans des médias.
Voilà.
Hein.
Voilà. Donc, du coup, c'est toujours pareil. D'ailleurs, dans le championnat de France, juste pour faire une parenthèse, quand c'est un entraîneur qui a entraîné à l'étranger ou un entraîneur à l'étranger, il est mal vu, il a été critiqué, Ancelotti.
Oui, c'est vrai.
Mais après, moi, je suis content pour ce qu'il a fait. J'étais même surpris.
Bien sûr.
Et oui, j'espère vraiment qu'il va pouvoir avec...
Qu'il va aller le plus loin possible.
Son équipe. Ça fait non, mais au moins déjà qu'il aille en huitième de finale. Après, il faudra les prochaines rencontres, comment il va les préparer. Mais c'est sûr que Vivien a dit quelque chose d'intéressant.
Ouais.
La stratégie est technico-technicale contre Deschamps, si c'est contre l'équipe de France, c'est très intéressant.
Il faudra faire attention. Il n'avait pas tort face à
Fouad qui est toujours avec nous. Je suis d'accord. Même si elle a battu l'équipe B de l'équipe de France.
Ouais.
Mais il faut s'appuyer sur cette rencontre.
Ah ben voilà. Tu vois, faut noter ça chez Kibi. Là, ils ont pas tort là, les auditeurs et aussi Vivien. Moi, on t'écoute. On va retrouver Mourad tout à l'heure pour le Maroc.
J'espère qu'il n'y aura pas cette affiche parce que moi, comme je suis français, j'ai envie que la France aille le plus loin possible.
On est français nous aussi.
J'ai envie qu'Hervé Renard aille le plus loin possible. Et ça serait dommage de perdre un des deux sur la route. J'aimerais bien voir l'Arabie Saoudite et Hervé Renard aller le plus loin possible et la France le plus loin possible. Donc voilà.
Allez, Anthony, avant de revenir avec les Lions de l'Atlas, les Marocains, cette sélection avec Greg Raghi.
Moi, je trouve que honnêtement, Hervé Renard a fait un super boulot depuis qu'il a repris l'Arabie Saoudite. Je pense qu'on ne le souligne pas assez dans tous les médias. Je trouve que c'est quand même la grosse surprise dans cette Coupe du Monde. J'espère, comme tout le monde le dit, qu'il aille le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. C'est vrai que ça serait quand même une très belle leçon s'il y a un France-Arabie Saoudite. Je pense que, au moins, comme l'a dit tout à l'heure, pour remettre les points sur les i, ou s'il y a une bonne confrontation, dire qu'Hervé Renard, c'est quand même un entraîneur de classe internationale. Alors oui, il a peut-être eu des périodes compliquées à Lille et en France, à Sochaux. Mais honnêtement, on l'a bien vu, je crois, il était avec le Maroc. Il a quand même fait aussi des belles choses.
Il a amené très loin.
Oui, le Maroc, il a entraîné aussi même en Algérie.
Est-ce qu'on n'a pas trouvé un prototype de ce qu'est un sélectionneur? Et c'est peut-être pas...
Ce sont deux métiers différents.
On en parlait avec Yacine, avec Mourad. Avec le président Kamel.
L'archétype du sélectionneur.
Et puis en France, on aime bien avoir certains types d'entraîneurs. C'est-à-dire, on a toujours les Genesio,
les Vivien, Bouy Banga, tu vois.
Le football français, c'est comme le cinéma français, ça fait...
Vivien, toujours plus. Vivien, mais non, Vivien, le cinéma, mais non, comme la politique, arrête. Ah, c'est qui? Il n'en remet pas une couche. Ah oui. Oui, mais attends, peut-être Vivien, se cache. Peut-être à travers Vivien. Eh oui, mais attends, se cache un illustre Michel Audiard, ou voir son fils Jacques, on ne sait jamais. Bien sûr, l'un des plus beaux paroliers du cinéma. Oui, mais pas que français. Mondial. Oui, de classe mondiale, tout comme un certain Diego Armando Maradona. Oui, Pelé. Nous pensons à Pelé ce soir. Hospitalisé, le roi Pelé. Faut pas l'oublier. Anthony, oui, une réaction, Anthony, avant de passer aux Marocains, justement.
Eh ben, en parlant du Maroc, je trouve aussi.
Le Canada, transition. C'est demain.
Exactement. Je trouve que le Maroc, quand même, j'espère qu'ils vont s'en sortir.
On l'espère. Allez, tous derrière le Maroc.
Dans une grosse poule. Oui. Bravo à eux d'avoir sorti la Belgique.
Bravo, les Marocains.
Ancien troisième
on y croit.
Du monde. La Belgique.
Et puis, ils ont fait match nul contre le vice-champion du monde au premier match, la Croatie.
Exactement, merci de le rappeler.
C'est sûr.
Et honnêtement, ils sont aussi un peu sous-estimés, mais là, ils montent aussi en gamme et en jeu. Et je trouve que c'est quand même super bien de la part de...
Alors Anthony, on a un communiqué de chez nos confrères de TF1 après la remise en jeu des Tunisiens. Et vas-y Anthony, s'il te plaît. Alors, et nous on va enchaîner avec
les Marocains. Je lis le communiqué de TF1.
Ouais.
Après la remise en jeu des Tunisiens et que l'arbitre a sifflé la fin du match, TF1 a, comme pour tous les matchs, rendu l'antenne pour laisser la place au MAG. Pendant ce laps de temps, un arbitrage vidéo a été demandé et le but tricolore refusé. Cette séquence a fait l'ouverture du MAG. TF1 s'excuse auprès de tous ses téléspectateurs qui n'ont pas pu vivre ce moment en direct.
Ah ben justement, moment en direct. On est en direct encore 5 minutes. Mourad et Fouad, peut-être, ils l'ont vécu en direct. Voilà, qu'en pensez-vous justement de ce, de ce laps de temps où il y a eu cette coupure Tunisie-France? Allez avec Fouad et Mourad.
Oui, oui, ils étaient pressés de balancer leur pub à plusieurs centaines de milliers d'euros.
Il faut payer.
C'est ça?
Ah, mais moi, ils sont cash. Ils ont raison, ils sont cash.
Faut t'avouer, faut pas pardonner.
Voilà, c'est ça. Pas cette fois, en tout
puis,
cas.
Puis la masse salaire des consultants là-bas est assez élevée, donc.
Non, mais c'est vrai que pour les téléspectateurs, c'est terrible. Je suis sûr que si j'appelle ma maman là tout de suite, elle regarde le match, elle regarde une fois tous les 4 ans le forfait. Ouais. D'ailleurs, je t'embrasse, maman, si tu m'écoutes.
Voilà, la maman d'Alexis.
Mais si j'appelle ma maman, je suis pas sûr qu'elle sache qu'il y a eu un partout en fait. Hein. Donc c'est terrible. Non, mais c'est terrible pour les téléspectateurs, franchement.
Mais oui.
Pour ceux qui regardent le football une fois de temps en temps, tu vois, pendant la Coupe du Monde, c'est.
Justement.
C'est vrai. Allez, Fouad, pour les professionnels.
Alors moi j'étais au travail quand il y a eu le match. Donc j'ai pas regardé le match, mais je l'ai suivi sur mon téléphone et j'ai pu voir en direct que le but a été refusé. Mais après, quand j'ai été dans l'entrepôt voir des collègues, ils étaient persuadés qu'il y avait un partout.
Oui,
c'est vrai.
Pareil. Hein.
Bah, écoute, moi aussi.
Mais c'est vrai. C'était outré que ça soit que ça passe à la pub, alors que moi j'étais persuadé que le but allait être refusé parce qu'il y a eu une poussette de malade. C'est sûr et certain.
Allez, la dernière rubrique de l'émission. C'est parti, on y va. Ah ben justement, on y est. Il nous reste à peu près 4 minutes avec Fouad et aussi Mourad. Désolé, c'est moi qui mets un peu à rater. Et c'est le Maroc dans ce fameux groupe F, messieurs dames, qui rencontrera le Canada demain 16h. Et oui, le Maroc face au Canada, et on y croit pour les Lions de l'Atlas, cette sélection marocaine. Oui, rapidement, Chekib.
Oui, non seulement Nico,
le Maroc de Negreghi.
Ça ne va pas se passer comme pour la Tunisie où il y a un espoir et ils ne passent pas. On espère que cette fois, ils passeront pour qu'on ait une nation plus africaine. Ce serait top.
Ouais.
Puis là où ce serait un cap de passer, ce serait que le Maroc termine premier. Alors, ils sont égalités avec
super.
La Croatie.
Ouais,
peut-être qu'il faudra marquer beaucoup de buts contre le Canada. Ça peut jouer au Gola Virage, par exemple. En cas d'égalité, j'ai un petit doute maintenant que j'en parle, mais je pense que voilà.
Si Croatie-Belgique ça fait nul, il faudra juste une victoire. Hein.
Donc, si la Belgique gagne, il faudra juste une victoire, j'ai l'impression que la Belgique va sombrer demain et que Maroc et Croatie vont s'imposer. Donc c'est pour ça qu'il faudra être assez réaliste et peut-être même avoir une belle victoire, un 3-0, 2-0.
Les Croates ils sont à plus 3 de différence de but et les Marocains à plus 2.
Tout est faisable. Pour Mourad, le score demain, allez, un pronostic. Canada-Maroc, Mourad.
2-1, victoire du Maroc. Et je l'espère sincèrement, après le Sénégal, qui puisse se qualifier.
C'est vrai. On l'espère.
On a aussi un nouvel entraîneur, ancien joueur de football.
Oui.
Donc, il faut que les nations africaines, quand même, dans cette Coupe du Monde, puissent quand même avoir un passage en plus que les phases de poule.
C'est vrai.
Il ne faut pas oublier qu'alors Vivien avait dit quelque chose, à la prochaine Coupe du Monde, il y aura 48 équipes, donc il y aura plus d'équipes africaines.
C'est vrai. Oui, on l'espère en tout cas.
Donc,
ces nations africaines et même asiatiques.
On espérait surtout que cette fois, Vaïd va la faire.
Un grand merci, Mourad, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM, cher auditeur.
Vivien, tu passeras le bonjour à Anne Hidalgo.
Ah bah, mais non, Fouad, on va l'écouter, Fouad, pour le pronostic rapide dans cette fin d'émission, Canada-Maroc demain.
Moi je suis content, 2-0 Maroc,
c'est
des qualifs incroyables,
ouais.
Première de leur zone, mais là, arrivé à la Coupe du Monde, je crois que c'est pas l'équipe de football qui est venue, c'est l'équipe de hockey ou de je ne sais quel sport. Il y a une première place à aller chercher, ça serait vraiment top, mais comme ça va Tunisie, si on ne peut pas gagner le match,
restez vigilants.
Un grand merci, Fouad. Un grand merci. On vous fait remporter ce magnifique guide de la Coupe du Monde au Qatar. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditeurs de Beurre FM. Vanessa arrive à grands pas. 21h, 23h et nous on se retrouve dès demain. Bye bye et très bonne soirée à toutes et à tous.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.